Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment admirable. Bien sûr, tout est admirable dans notre Seigneur Jésus-Christ, d'une part parce qu'il est Dieu, ensuite parce qu'il est l'homme parfait. Mais cette humilité est vraiment extraordinaire et admirable parce qu'elle est d'une grande richesse. On retrouve encore une fois le sens réel des choses humaines lorsqu'on les met à la lumière de Dieu. Je vous en ai parlé lorsque j'ai fait mes sermons sur les vertus morales. Je vous ai parlé de l'humilité, de la richesse de l'humilité. Là, nous allons revoir en notre Seigneur Jésus-Christ cette belle vertu et nous allons peut-être un peu mieux comprendre d'où vient cette richesse de l'humilité et comment cette grande et belle vertu, si décriée peut-être, enrichit celui qui la pratique. Une petite précision, notre Seigneur fut humble et soumis à son Père, évidemment dans sa nature humaine. Et comme le nom du Christ désigne plutôt la personne, il n'est pas très prudent de dire le Christ fut humble ou le Christ fut soumis à son Père, de même qu'on ne dit pas le Fils fut humble ou fut soumis à son Père. Il faut préciser, le Christ ou le Fils fut soumis à son Père dans sa nature humaine. Il est évident que c'est la nature humaine qui est dans cette condition. C'est la condition normale de la nature humaine d'être dans la dépendance de Dieu. Parce que Dieu est le Créateur, c'est-à-dire celui qui ne dépend de rien ni de personne, et de qui tout dépend, tandis que la définition de la créature, la première chose qui saute aux yeux quand on parle de la créature, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle n'est pas autonome, enfin qu'elle n'est pas indépendante, et qu'elle dépend de Dieu, qu'elle tire son être de Dieu. Après ça, on peut définir chacune des créatures, mais la première chose qui saute aux yeux, c'est cela. Or, l'homme s'était révolté par le péché originel et était né dans le péché, et dans le péché de révolte, né détourné de Dieu. Et donc notre Seigneur vient, et nous allons voir comment, le retourner vers Dieu. Pourquoi l'humilité ou la soumission est-elle une vertu si riche? Saint Thomas nous donne trois raisons. Trois raisons de la soumission du Christ à son Père, mais qui vont éclairer, comme je viens de vous le dire, la soumission, la nôtre, envers Dieu, envers le Christ et envers Dieu. Première raison, c'est une question de bonté. Parce que, étant donné que Dieu est la source de toute bonté, il ne peut y avoir dans le monde, il ne peut exister de bonté que si elle est reçue de Dieu. C'est un petit peu comme un soleil qui rayonne, qui éclaire, qui réchauffe, et on ne peut posséder ce rayonnement qu'en l'ayant reçu. Or, notre Seigneur était tout à fait reconnaissant à Dieu le Père de toutes les qualités, de toutes les perfections que celui-ci lui avait données dans sa nature humaine. Donc la première raison, c'est la bonté. Vous voyez que, puisque l'humilité nous fait, c'est un petit peu comme celui qui a froid, qui se met au soleil pour se réchauffer. Eh bien, l'humilité nous met au soleil de la bonté de Dieu. Deuxième raison, la nature humaine est soumise à Dieu en raison de la puissance de Dieu, parce que, comme toute créature, elle obéit à l'activité réglée par lui. Je vous l'ai souvent dit, Dieu a un plan, Dieu a un plan sage. Dieu ne veut pas aveuglément, Dieu veut parce que sa volonté est le prolongement de sa grande sagesse. Par conséquent, toutes les créatures, tout l'ordre du monde dépend de cette sagesse de Dieu. Et en dehors de cette dépendance envers la sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a destruction, néant, péché, révolte, toutes choses qui sont le chemin de l'enfer. L'enfer est un refus de cette dépendance envers Dieu. Et naturellement, toute nature humaine est soumise au plan de Dieu, au plan infaillible de Dieu. Alors soit on le reconnaît, soit on ne le reconnaît pas. C'est-à-dire soit on l'accepte et on entre dans ce plan de Dieu, soit on refuse, et à ce moment-là, c'est la révolte. Je vous en ai parlé au sermon dimanche dernier à propos de l'éducation et notamment des adolescents. Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ, venant rétablir l'ordre de Dieu, venant montrer la puissance de cette sagesse de Dieu, se soumet pleinement à lui pour que son activité soit réglée par Dieu. Vous allez me dire, mais il est Dieu. Voilà pourquoi Saint Thomas d'Aquin pose la question, le Christ était-il soumis à lui-même? Et il répond, ben oui, on peut le dire d'une certaine manière, puisque sa nature humaine était soumise à sa nature divine. Mais cela veut dire justement que sa nature humaine était pleinement soumise à la divinité. Et sa nature humaine, Dieu n'a pas, le Christ n'a pas voulu qu'elle fût une exception, parce que ce n'était pas possible. Parce que lui-même ne sort pas de sa sagesse. Donc il n'aurait pas pu faire une exception en disant ma nature humaine est la nature humaine du Fils de Dieu, donc je la laisse faire ce qu'elle veut, elle n'est pas contrainte, je ne la contrains pas, je ne la tiens pas, elle est libre au sens moderne du terme. Non, pas possible. Non. Elle est la nature humaine du Fils de Dieu. Par conséquent, elle est pleinement dans la main du Fils de Dieu. Et tous les faits se rapportant à l'humanité de Jésus-Christ sont voulus par la providence divine. Troisièmement, la nature humaine doit une obéissance volontaire aux préceptes divins. Voilà pourquoi le Christ a déclaré: Je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Il faut bien nous rendre compte. Nous avons tendance à l'oublier. Nous surtout qui sommes nés, pour la plupart d'entre nous, dans la foi, grâce au baptême. Qui sommes nés dans un pays profondément, anciennement chrétien. Nous avons tendance à oublier que nous sommes des fils de colère parce que nous sommes nés dans la révolte de Dieu. Nous sommes nés détournés de Dieu. Vous allez me dire, le petit bébé qui vient de naître n'y est pour rien. N'empêche, il est détourné de Dieu. Lorsqu'il naît, il est sous la puissance du démon. C'est le baptême qui va le retourner vers Dieu. Mais comment le baptême est-il efficace? Grâce au mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu cela la dernière fois. Notre Seigneur a-t-il mérité? Bien sûr, notre Seigneur a mérité. Et notamment, son humilité a mérité. Son humilité a rendu à Dieu la gloire que le péché avait prétendu lui ravir. Il y avait une révolte qui a voulu ravir à Dieu la gloire. C'est un petit peu comme dans une famille. Imaginez le fils qui se révolte contre son père. en pleine réunion de famille, devant des étrangers, des amis qui sont invités, le père a honte de cette révolte de son fils. Mais à ce moment-là, un autre fils, le fils aîné, vient montrer toute la profonde vénération qu'il a pour son père, et il rachète. Et à ce moment-là, les invités, la famille comprend que le père n'est pas déshonoré, c'est simplement un des fils qui n'a pas voulu reconnaître la sagesse, la bonté, le rayonnement bon de son père. Et tout le monde comprend. Et si le fils aîné intercède, et que le frère qui s'est révolté vient près du fils aîné, alors celui-ci le conduit à son père en lui disant « Père, je vous demande pardon pour mon frère. » Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Notre Seigneur Jésus-Christ, et il l'a fait d'une puissance, avec une puissance immense, puisqu'il est allé jusqu'à la mort de la croix, par obéissance. Le Christ, nous chantons cela lors de la Semaine Sainte, s'est fait obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Quand je vous disais que l'humilité est une vertu très riche, nous l'avons là. Et avec l'humilité, il faut que nous parlions de la prière du Christ. Pourquoi faut-il parler de la prière ? Parce que la prière est également la démarche de quelqu'un qui est soumis. Et on ne prie pas un inférieur. On ne prie même pas un égal. On prie un supérieur. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est une demande faite à Dieu. Oui, je sais, il y a aussi la prière de la contemplation. Et notre Seigneur, c'est évident, était pleinement dans la contemplation de la divinité, sa nature humaine. Je vous en ai suffisamment parlé. Mais je ne parle pas de cette prière-là qui est plus qu'une prière, qui est la vie. Non, je parle de la prière au sens strict, la demande. Notre Seigneur a-t-il prié son Père ? Mais oui, il a prié son Père, parce que c'est dans la nature des choses qu'une nature créée soit dans la dépendance de Dieu, et vous avez deux dépendances, vous avez la dépendance connue et la dépendance instinctive. Instinctive, c'est celle des animaux, et puis la dépendance connue, c'est celle des hommes. La dépendance connue doit être reconnue, c'est-à-dire que on doit déclarer à Dieu qu'on reconnaît qu'il est le maître. Et je vous ai dit que dans sa grande bonté, Dieu veut donner beaucoup aux hommes. Dieu est infiniment bon, et il y a des choses qu'il leur donne sans que les hommes aient besoin de les demander, et il y en a d'autres qu'il ne donne que si les hommes demandent. Et il n'a pas voulu que la nature humaine du Christ échappe à cette règle-là. Ça n'aurait pas été dans l'ordre. C'est une question d'union de la volonté humaine à la volonté divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Thomas nous dit, la volonté humaine n'est capable de réaliser ce qu'elle veut que grâce à la puissance divine. C'est pourquoi il convient au Christ de prier en tant qu'homme possédant une volonté humaine. Mais il faut aller plus loin. La volonté humaine n'est pas seulement capable de réaliser ce qu'elle veut, elle est capable de vouloir seulement en dépendance de Dieu. C'est Dieu, je vous l'ai dit, qui rayonne. Si ce rayonnement est reçu, à ce moment-là, la volonté est enrichie, elle est éclairée, elle est réchauffée, et elle est vivifiée. Et il est normal qu'étant vivifiée, elle retourne vers son Créateur pour agir conformément à ce que le Créateur veut. Et c'est par la prière qu'elle se met en accord avec Dieu. On peut faire une objection, mais le Christ savait très bien que le Père allait l'exaucer. Et la réponse est facile, parce qu'elle est pour le Christ comme pour nous. Oui, le Christ savait très bien que son Père allait l'exaucer, mais il savait que son Père l'exaucerait parce qu'il aurait prié. Vous allez me dire, le Christ ne risquait pas de ne pas prier. Mais évidemment que non. Il de même qu'il ne peut pas pécher. Il ne pouvait pas faire quelque chose qui n'était pas dans l'ordre. Mais ça, c'est pas une véritable objection. Le Christ est naturellement parfait. C'est à nous de prendre modèle sur lui. Comment se fait-il que trop souvent, nous trouvions normal, justement, d'échapper à Dieu, de ne pas nous mettre dans la soumission à Dieu, et donc de ne pas lui déclarer que nous reconnaissons que nous dépendons de lui. Et donc, la prière va nous ouvrir le cœur. Elle n'a pas pour but de changer le plan de Dieu, mais d'ouvrir le cœur. Et notre Seigneur, en priant, parce que nous voyons bien dans l'Évangile qu'il prie, notamment quand il va choisir ses apôtres, il passe une nuit entière à prier avant de choisir les apôtres, parce qu'il y a une œuvre là qui va être capitale pour la suite de l'histoire de l'Église. Et il veut que la grâce divine descende sur les apôtres par son choix. Et donc il prie pour être justement le parfait dans sa nature humaine, le parfait instrument de Dieu pour répandre la grâce sur les apôtres. Saint Thomas pose une question qui est importante, mes bien chers frères, parce qu'elle va vous aider à comprendre ce qu'est la prière. Et il dit, le Christ pria-t-il selon sa sensibilité? Saint Thomas est préoccupé, comme vous, par cette prière du Christ, Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, Père, mais que la vôtre se fasse. Il nous l'a déjà expliqué deux fois, je crois, il va cette fois-ci redonner encore une explication. Parce qu'évidemment, nous touchons du doigt le mystère de l'incarnation et le mystère de l'humilité du Christ. Saint Thomas répond, alors premièrement, la sensibilité ne peut pas prier. Ça, c'est bon de le rappeler. Trop souvent, peut-être que les femmes étant plus sensibles, ont plus de mal avec cela, trop souvent, nous cherchons à ce que la sensibilité soit parfaitement en accord avec nous dans la prière. On aurait presque envie de pouvoir toucher du doigt la prière. On se dit, si on n'a pas l'enthousiasme sensible, alors la prière n'est pas authentique. Ce n'est pas vrai, mes bien chers frères. Ce n'est pas vrai. Justement, prenez exemple, regardez cette prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa sensibilité avait beau être celle de Dieu, elle avait un désir qui était de vivre. Bien sûr, elle est immédiatement soumise à la raison supérieure, c'est-à-dire elle va être emmenée à la mort. Et donc, saint Thomas commence par nous dire, la sensibilité ne peut pas prier, parce que la sensibilité vise trop bas. C'est la raison qui vise haut. Et donc, ne nous inquiétons pas, mes bien chers frères, si notre sensibilité ne suit pas toujours comme nous le voulons. C'est la volonté, c'est la raison qui prie. Par contre, on peut dire que quelqu'un prie selon sa sensibilité, en ce sens que la raison, dans la prière, expose à Dieu le désir de son appétit sensible. J'aimerais bien, Seigneur, ne pas souffrir. J'aimerais bien, Seigneur, ne pas mourir. J'aimerais bien. Et sous ce rapport, le Christ a prié selon sa sensibilité, c'est-à-dire que sa prière s'est faite l'avocat de sa sensibilité. Et puis après ça, immédiatement, il la ramène à la raison. Alors pourquoi le Christ a-t-il fait cette prière? Pour nous instruire. Pour nous instruire qu'il a assumé une véritable nature humaine, avec toute son affectivité naturelle. Il n'était pas un surhomme, il était un homme parfait dans la main de Dieu, mais pas un homme d'une autre race que nous. Deuxièmement, pour nous montrer qu'il est permis à l'homme de vouloir d'une affection naturelle ce que Dieu ne veut pas, c'est-à-dire d'avoir une tendance, non pas vouloir au sens d'exiger de l'obtenir, mais d'avoir une tendance à guérir alors que Dieu ne l'a pas voulu. C'est normal. Le tout, c'est que cette tendance ne prenne pas le pas, je vous en ai déjà parlé. Et troisièmement, que l'homme doit soumettre sa propre affectivité à la volonté divine. Le Christ a prié pour nous, bien entendu. Et j'allais dire, c'est pas pour ça qu'il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre principalement pour rendre à Dieu, son Père, la gloire que le péché lui avait ravie, lui avait volée. Et ce faisant, je vous ai pris l'exemple du fils ingrat, du fils aîné qui demande pardon. Ce faisant, quand il a prié pour nous, il a fait plusieurs choses. D'une part, il a intercédé pour nous. Deuxièmement, il nous a appris à prier. Troisièmement, il a présenté à Dieu notre prière. La grande prière que le Christ a faite. Il y a beaucoup de prières du Christ que l'on connaît, d'abord parce que certaines sont dans l'Évangile, et puis d'autres, c'est les psaumes. Le Christ connaissait par cœur tous les psaumes que le prêtre dise chaque semaine en entier, les 150 psaumes. Le Christ les a tous récités. Et dans ces psaumes, il y a une partie qui le concerne lui, dans laquelle il demande à Dieu son Père sa glorification pour l'honneur de Dieu. Et puis, il y a une partie dans laquelle il intercède pour nous. Et puis, il y a une partie dans les psaumes qui ne convient absolument pas au Fils de Dieu. Lorsque Jésus-Christ, en récitant les psaumes, demande pardon pour le péché, c'est évidemment pas ses propres péchés, il n'y en a pas. Et on pourrait dire, il demande pardon pour le pécheur, mais c'est pas ça. Il se présente en pécheur et demande pardon. Que cela signifie-t-il? Qu'il a dit avec nous les prières, et il les a présentées à son Père pour que son Père nous exauce, nous. Et par conséquent, nous devons nous unir à la grande prière du Christ. Relisez, mes bien chers frères, les chapitres dans Saint Jean, juste après la scène, chapitre 16, 17, dans laquelle il y a ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Le Christ a prié pour nous. Et c'est des sujets qui nous concernent, qui sont très d'actualité, sur le monde, sur la lutte avec le monde, sur le monde méchant, sur l'amour de nos frères, sur l'amour de Dieu, sur la gloire après la passion, sur la gloire après la passion. Et par conséquent, il annonce déjà, à mots couverts, mais il annonce la passion de l'Église. Voilà comment, une des raisons parmi beaucoup d'autres, pour lesquelles notre Seigneur est la voie qui nous mène à Dieu. Alors, mes bien chers frères, demandez à la Sainte Vierge, qui fut la reine de l'humilité, qui fut la reine de la prière, qui a récité ce si beau Magnificat. Demandez-lui qu'elle vous enseigne le secret, le mystère de l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle vous en pénètre profondément, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.